On va aller dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 3. Ecclésiaste chapitre 1, versets 1 à 3. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Alors, la semaine dernière, on avait commencé à faire une introduction au livre avant de procéder à l'étude elle-même de l'ensemble du livre. Et on va y aller par chapitre, par groupe de versets. On va passer à travers. Et la semaine dernière, je vous avais donné un annexe 1, un annexe 2. On va s'en servir un petit peu à la fin de notre étude d'aujourd'hui. La raison pour laquelle on va le faire, c'est qu'on va voir le thème du livre et on va voir de quelle façon le plan du livre va nous aider à avoir une idée complète et globale de l'ensemble du livre. On va voir comment, autrement dit, Salomon développe son thème de manière à prouver son point. On va voir, et ça va être intéressant de le faire, et ça va aider à la compréhension. Alors, la seule chose qu'on voulait rappeler un petit peu par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, on ne refera pas tout ce qu'on a vu la semaine dernière, mais on va tout simplement le reviser de façon rapide. Alors, la première chose qu'on avait voulu mentionner la semaine dernière, c'était la pertinence du livre et son étude de nos jours. Parce que, justement, le scepticisme qu'on peut observer dans les temps modernes a quelque chose de très similaire avec le contenu du livre de l'Ecclésiaste. Alors, c'est très important de l'étudier parce qu'aujourd'hui, je dirais encore plus que jamais, c'est nécessaire de faire cette étude-là de manière à percevoir l'idée principale que l'auteur cherchait à nous véhiculé. Quelqu'un qui se donne la peine d'étudier le livre de l'Ecclésiaste de façon détaillée, du premier verset au dernier du livre, se rend compte que à l'intérieur même du livre de l'Ecclésiaste, on parle peu ou pas du tout de la personne de Christ. Cependant, l'auteur était un roi. Et il a écrit ce livre vers la fin de sa vie, alors qu'il avait absolument tout goûté et qu'il avait tout essayé. Il était célèbre, il était riche, il avait essayé énormément de choses. Et c'est après avoir toutes fait ces choses-là, sur la fin de sa vie, qu'il a écrit ce livre-là. Et le résultat qu'on va voir se développer au cours des prochaines leçons, c'est qu'on va voir que le résultat de toutes ces expériences ne lui ont apporté que déception, qu'insatisfaction et que désillusion. Alors, c'est important qu'on voit cela. Alors, quand quelqu'un est déçu, insatisfait et désillusionné, on pourrait dire que la voie est tracée et préparée, le chemin est préparé, le cœur est préparé pour recevoir l'enseignement qui concerne qui touche la révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors on voit que c'est quand même si on n'en parle pas de façon directe, c'est quand même quelque chose qui est utile dans le livre de l'ensemble de la Bible, pour justement préparer le cœur à voir toutes les futilités et toute la précarité de ce qui se passe sur la terre, dans le but que bientôt le cœur va être préparé à recevoir la vérité et la lumière. On avait vu également que le livre, selon plusieurs auteurs, était considéré comme un des plus difficiles à interpréter. Alors, bien entendu, lorsqu'on lit une pareille chose, ou lorsqu'on entend une pareille chose, et qu'on n'a pas énormément d'expérience de la vie tant que ça. On en a, mais on se rend compte que c'est quand même une aventure que de vouloir interpréter le livre, essayer de le comprendre et essayer d'appliquer dans nos vies tout ce qu'on a découvert. Cependant, même malgré les difficultés, il faut toujours se rappeler que les Écritures sont inspirées de Dieu et qu'il n'y a aucun mot dans toutes les Écritures qui n'a pas sa place. Et le livre de l'Ecclésiaste a bien entendu sa place dans tout cela. Alors, c'est un livre difficile à interpréter, mais on se doit de faire les efforts d'essayer de le comprendre, de l'étudier. Et en plus, on a une aide précieuse qui est celle du Saint-Esprit. Alors, il ne faut pas oublier, lorsqu'on étudie un pareil livre, d'aller en prière chaque fois qu'on ouvre le livre et chaque fois qu'on veut étudier le livre de manière à le comprendre. On se doit de prier et d'implorer et de garder notre humilité et savoir que seul Dieu peut nous ouvrir, peut nous donner la clé de compréhension de l'ensemble du livre. On avait vu aussi également que selon les auteurs, je dirais traditionnels, on croit que c'est le roi Salomon qui a écrit le livre, même si à l'intérieur du livre, on ne mentionne pas. Qu'il ne mentionne pas lui-même qu'il est l'auteur. Il l'a fait dans d'autres livres, il l'a mentionné que c'était lui, mais pas dans le livre de l'Ecclésiaste. Alors, la plupart des auteurs traditionnels ou conservateurs vont être unis pour dire qu'ils croient véritablement que c'est le roi Salomon, fils de David, roi de Jérusalem, qui a écrit cela. Et on croit qu'il l'a fait à la fin de sa vie, alors qu'il avait absolument tout ce qu'il va décrire dans l'ensemble des chapitres, c'est quelque chose qu'il a vécu personnellement. Alors, l'auteur, la plupart des commentateurs croient que l'auteur du livre de l'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon sur la fin de sa vie. Alors, on peut se rappeler aussi qu'on avait parlé des thèmes, les principaux thèmes qui sont développés dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, il y a au moins trois grands thèmes. Le premier, ce sera celui de la futilité de la vie sans Dieu. Autrement dit, il veut développer l'idée que peu importe ce que tu vas essayer, si Dieu n'est pas dans l'équation, si Dieu n'est pas dans l'image, qu'on pourrait dire, dans ta vie, c'est futile, donc inutile. Et perte de temps, et précarité, fragilité. Deuxième idée, c'est celle de l'inévitabilité de la mort. Autrement dit, l'être humain, lorsqu'il vit sur la Terre, va souvent consacrer ses efforts à essayer d'acquérir du savoir, de la richesse. Il va vouloir vivre toutes sortes d'expériences qui vont faire passer son corps avant son âme, etc., etc. Autrement dit, il ne pensera pas à la mort. On dirait qu'aujourd'hui, la mort, les gens ne veulent plus entendre parler. Ils vont même trouver des termes élégants pour parler de la mort. La mort comme telle n'est pas quelque chose qui attire les hommes, dans le sens de vouloir connaître plus de choses. On dirait qu'on cherche à l'éloigner, on cherche à l'ignorer. Alors, l'inévitabilité de la mort. Alors, peu importe qu'un homme court après les richesses, qu'un homme fasse tout ce qu'il peut pour acquérir du pouvoir, ou du prestige, ou du succès, ou qu'il se réfugie dans les plaisirs sensuels frivoles, alors, bien entendu, il oublie à l'intérieur de tout ça qu'il est mortel et qu'un jour, il va devoir rendre des comptes au Seigneur. Et le troisième grand thème, c'est celle de la seule certitude qu'on peut avoir dans la vie. Cette certitude-là est la suivante. Dieu et l'ambition de lui plaire sont les seules choses dignes d'être poursuivies. Autrement dit, si on regarde l'ensemble du livre, on va voir différentes choses que Salomon a poursuivies. Et à la fin, il nous déclare que si tu n'as pas la crainte de Dieu puis tu n'observes pas ses commandements, c'est, ta vie est vaine, ta vie elle n'a pas de sens. Alors, on revient un petit peu parce qu'on l'avait donné à la leçon comme titre « Précarité des précarités, tout est précarité ». Alors, l'idée était que toute la vie n'est que comme un écran de fumée, comme de la vapeur, comme une bulle de savon fragile. Alors, ce qui est intéressant, c'est de venir rappeler, lorsqu'on étudie le livre, on voit que les auteurs utilisent plusieurs idées pour parler du mot précarité ou vanité. Et les mots sont les mots suivants. Ce sont tous des mots qui sont riches de sens. Alors, on a la fragilité. Quand on dit que quelque chose est fragile, ben ça peut facilement se briser, se casser. Et c'est faut faire attention. Deuxième chose, c'est l'instabilité. Dans la précarité, on sait que l'instabilité, c'est quelque chose... La vie peut paraître... Quelqu'un peut avoir de l'argent, puis du jour au lendemain, il peut tout perdre sa fortune. Alors, c'est fragile. C'est instable, autrement dit. Alors, l'image de la bulle de savon est intéressante. Je me souviens d'avoir vu sur Internet que... Il y a un gars de Montréal que j'ai vu... Il a développé un loisir assez intéressant. Il se fait un mélange de savon. Il met ça dans une grosse, grosse chaudière. Et il monte sur le toit de l'édifice. Et là, il a comme un appareil pour être capable de faire des bulles de savon. Et ces bulles de savon, quand on les regarde sur Internet, elles sont grosses comme un être humain. Là. Des grosses, grosses bulles. Alors, si c'est sûr que quand il en voit plusieurs dans l'air, ils s'en vont dans toutes les directions, il y a comme un film là-dessus. Moi, je dirais bien ça, une apparence de la bulle qui face au soleil, donne des reflets intéressants de couleurs. Et bien sûr, on sait que dès que quelqu'un touche à ça, ou bien non, à un moment donné, elle a volé pour un certain temps, donc pouf, elle pète. Alors, je pense que c'est une image intéressante pour parler justement de la précarité. C'est comme une bulle de savon. Alors, des fois, les enfants s'achètent des genres de petites bouteilles avec des genres de l'eau savonneuse comme ça, là, puis ils trempent leur un petit appareil là-dedans, puis ils soufflent là-dessus, puis on voit les ballons sortir, et on voit que si les enfants adorent ces affaires-là, c'est plaisant à l'œil. Alors, c'est vraiment l'idée de la futilité. Quelque chose qui est futile, c'est quelque chose qui est frivole. Quelque chose qui est léger, superficiel, même insignifiant, inutile, vide, inconsistant, illusoire et vain. Quand on dit quelque chose est vain, c'est que ça n'a pas de... Alors, c'est à peu près ce qu'on avait regardé la semaine dernière. Alors, on va aller dans... Ceux qui ont les notes vont pouvoir aller à la page... On était rendu... à la page 7, pour ceux qui ont téléchargé les notes. Et sinon, ben on était rendu qu'on avait regardé le premier verset, qui dit, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Quand on étudie un livre avec des commentateurs, on est surpris de voir la quantité d'idées qu'il peut y avoir dans un verset comme ça. Le verset est court, là. On ne peut pas dire que c'est un verset très long. Parole, au pluriel, de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. On avait vu un petit peu la semaine dernière toute la richesse qu'il peut y avoir à l'intérieur de ça, et aussi les idées, qu'on pourrait dire des idées évocatrices. Quand on dit, par exemple, fils de David, on va voir que les Écritures utilisent cette expression-là en parlant de Jésus-Christ. Alors, bien entendu, le mot « parole » au pluriel veut nous parler que dans les Écritures, on a Dieu se sert des hommes pour parler à travers eux. Et donc, il y a des paroles. Dans le fond, on sait que les Écritures, la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Bon, si j'ai été inspiré de Dieu, c'est soufflé de Dieu. Donc, le fond, le mot parole, il y a aussi l'idée que ces paroles-là trouvent leur source en Dieu lui-même. Donc, et il se sert d'un instrument. Donc, la source est en Dieu lui-même, mais l'instrument humain, on croit que c'est fort probablement le très sage et très expérimenté roi Salomon. Ensuite, on parle de l'Ecclésiaste. On peut y parler de l'Ecclésiaste. Dans la version Darby, le terme Ecclésiaste est traduit par prédicateur. Parfois, le mot Cohélète est utilisé. Ce nom Cohélète véhicule l'idée de rassembleur, d'instructeur, d'orateur et de plaideur. Alors, toutes ces idées-là sont incluses dans l'idée de prédicateur. Un rassembleur, un instructeur, un orateur et un plaideur. Et ensuite, on a l'expression fils de David. Bien sûr, on avait parlé la semaine dernière que le prénom David signifie chéri ou aimé de Dieu. Alors, on voit ici que l'auteur est de lignée royale. Donc, il est le fils d'un roi. Alors, on avait regardé ça un peu la semaine dernière, l'idée. Et aussi l'idée de fils de David. Fils de David, on sait que David était roi de Jérusalem. Il a eu un fils et son fils. Aussi, le nom, ce qui est intéressant aussi de parler du nom de Salomon. Dans les Écritures, on en parle comme étant Jedidia, qui signifie aimé de l'Éternel. Alors, quand on regarde David est chéri ou aimé de Dieu, et Jedidia, qui est Salomon, lui, quant à lui, son prénom signifie aimé, ou son nom signifie aimé de l'Éternel. On trouve cette idée-là dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, les versets 24 et 25. Alors, ça dit: Et David consola sa femme Bathsheba, et il vint vers elle et coucha avec elle. Et elle enfanta un fils qu'il nomma Salomon. Verset 25, et l'Éternel l'aima, et il envoya Nathan, le prophète, qui lui donna le nom de Jedidia, qui veut dire aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Alors, on avait vu, c'est là qu'on était rendu la semaine dernière. Là, on va voir aujourd'hui le verset 2, qui dit tout simplement, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Tout est vanité. Alors, on peut dire de cette phrase-là qu'elle est vraiment audacieuse, qu'elle est intense aussi et qu'elle est universelle. Elle s'applique à absolument tout du domaine terrestre et temporel. Le mot vanité au singulier ou vanité au pluriel, dans ce seul verset, est utilisé 5 fois. Alors, le superlatif est utilisé pour exprimer l'extrême, le plus haut degré possible. Pour le prédicateur ou l'ecclésiaste, le verset 3 est son texte, ou on peut dire même le verset 2, 2 et 3, est son texte, son thème et son sujet. Cette illustration, cette citation illustre très bien le sens de cette expression. Dans l'Ecclésiaste, la sagesse de Dieu nous est prêchée par l'intermédiaire de Salomon, qui, au terme de sa vie, ayant été sensibilisé à son péché et à ses égarements, a témoigné de son expérience pour le bien des autres. Salomon nous convainc de la vanité du monde, du fait que celui-ci ne peut pas nous rendre heureux. Il nous rappelle la bassesse du péché et sa tendance inéluctable à nous rendre misérables. Il montre que rien de ce qui a été créé ne peut satisfaire l'âme et que le bonheur ne peut se trouver qu'en Dieu seul. Une telle doctrine ne peut, sous l'enseignement de l'Esprit, que conduire notre cœur à Jésus-Christ. Que signifie l'expression « vanité des vanités » ? Il s'agit en hébreu d'une tournure superlative, d'où la traduction « futilité complète, tout n'est que futilité ». Le mot traduit par « futilité » évoque l'insignifiance et l'inconsistance de la vie sans Dieu. Il est utilisé par les auteurs bibliques lorsqu'ils veulent parler de la fragilité de l'homme, du caractère fugitif ou inutile d'une chose. La vie humaine n'est qu'un souffle. Les efforts et les projets de l'homme sont inutiles. L'homme ne dure que le temps d'un souffle, une réalité éphémère, une vapeur, du vent. Le mot hébreu, traduit traditionnellement par vanité, désigne souvent ce qui est insignifiant, futile, vain, passager, fragile et dérisoire. Tout n'est que néant là où l'homme échange le but de sa vie contre des valeurs matérielles ou lorsqu'il voit dans la vie elle-même le bien suprême. Dans l'opinion de Kohelet, les valeurs les plus prisées, même dans une perspective humaniste, demeurent finalement vides et sans consistance lorsqu'elles ne sont pas reçues de la main de Dieu et qu'elles ne demeurent pas liées à lui. Alors j'ai mis, dans ceux qui ont les notes, l'endroit sur Internet où j'ai trouvé cette citation-là. Alors, dans la citation, deux grandes vérités sont enseignées. La première est que tout dans la vie terrestre sans Dieu est éphémère, donc de courte durée, et qui peut cesser très vite. La deuxième est le côté imprévisible, incompréhensible, autrement dit qui va au-delà de notre capacité de saisir, et aussi le côté incontrôlable de la vie des mortels. Donc, deux choses importantes. Une, que la vie terrestre sans Dieu est éphémère. Deux, que dans la vie, il y a de l'imprévisibilité, on ne peut pas tout comprendre et on ne peut pas tout contrôler dans notre vie de mortel. Alors, on va aller regarder trois versets, trois passages, dans le psaume 39, le verset 5 et 6. Éternel, fais-moi connaître ma fin et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien courte est ma durée. Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de quatre doigts et ma durée est devant toi comme un rien. Oui, tout homme debout sur la terre n'est que vanité. Psaume 144, verset 4. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Et Romains, chapitre 8, verset 20. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qu'il y a assujetti. Troisième idée, on va regarder, c'est le verset 3. Donc, c'est la précarité qui est explorée. Alors, le verset se lit comme suit. Quel avantage a l'homme de tout le travail auquel il se livre sous le soleil? Alors ici, le prédicateur introduit ce qu'on pourrait appeler la grande question, celle qui oblige à réfléchir et à méditer. Elle sonde avec une grande profondeur et incite à examiner tous les secteurs de la vie pour vérifier sa vérité et son authenticité. Alors, quand on regarde le premier mot ou le deuxième dans le verset 3, on parle du mot « avantage ». Dans certaines versions, le mot « avantage » a été traduit, par exemple dans la version Darby, par le mot « profit ». Autrement dit, quel profit? Autrement dit, on a tous la notion du profit. On achète quelque chose à un prix, on le revend à un prix supérieur, et la différence entre le prix qu'on l'a payé et le prix qu'on le vend, ça constitue notre profit. Et il est en train de dire ici quel profit ou quel avantage a l'homme de tout le travail auquel il se livre sous le soleil. Et il faut aussi se rappeler que le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, nous a parlé aussi de cette idée-là. Dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 26, il nous dit « Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? » Alors, en poursuivant les biens et les richesses terrestres, les honneurs, les plaisirs, les grandes ambitions, le succès ou l'acquisition du savoir pour le savoir, et d'autres illusions similaires, l'homme doit se rendre compte que le résultat de la poursuite effrénée de ces choses amène toujours l'amère déception, la profonde insatisfaction et une grande désillusion. Autre chose intéressante dans le verset 3, c'est le mot « travail ». Alors, on utilise ici « quel avantage a l'homme de tout le travail ?» Alors, ici, le mot « travail » dans ce verset-là est traduit, par exemple, dans la version Darby, par le mot « labeur ». Alors, et par le mot « peine » dans la version Louis II, 1910. Alors, on voit que « travail », peine et labeur sont des idées qu'on pourrait dire synonymes. Alors, l'expression du verset auquel il se livre est traduite par « dont il se tourmente » dans la version Darby. Alors, ces nuances dans la terminologie des différents versets, des différentes versions, est éclairante. On parle de travail, de labeur et de peine, et on parle aussi auquel il se livre, dont il se tourmente. Autrement dit, tout ce que l'homme fait sur la terre, peu importe que ce soit la poursuite des biens, la poursuite des richesses, la poursuite des honneurs, des plaisirs, des grandes ambitions, du succès, ou acquérir du savoir pour le savoir, et d'autres illusions similaires, ça va lui emmener des tourments. Et la question sondante que le roi amène ici, elle a un but. Elle a un but de pousser l'homme à réfléchir sur l'ensemble de ses activités et de ses poursuites terrestres dans le but de lui montrer que toutes ces choses-là sont futilité et précarité et inutiles. Et tout ce qu'on a vu un peu tantôt, les différents mots utilisés pour parler, qui tournent autour de la même idée. Alors, l'homme doit apprendre que la seule poursuite de Dieu apporte de la réelle satisfaction. Alors, c'est intéressant parce que aujourd'hui, on voit le monde vivre, on voit dans le cinéma, on le voit à la télévision, on le voit dans les revues, on le voit dans les journaux. Les hommes courent après toutes sortes de choses qu'on vient de nommer. Et on voit que bien souvent, même lorsque quelqu'un court après la richesse, dès qu'il l'atteint, il n'est pas content. Un homme court après les plaisirs, Il va tous les essayer, puis après qu'ils ont tout essayé, il n'est pas content. Etc., etc. Alors, peu importe les choses que tu fais sur le soleil, si Dieu n'est pas dans l'équation, si Dieu n'est pas le but, si Dieu n'est pas l'objectif, alors bien sûr, toutes ces choses-là sont éphémères, sont inutiles, sont précaires, sont fragiles, et sont comme une bulle de savon. Très intéressant. Alors, lorsque l'homme, il va toujours être déçu dans sa course des choses terrestres si Dieu n'est pas dans l'équation. Il sera toujours déçu, insatisfait et désillusionné lorsqu'il fera passer les plaisirs et les illusions du monde avant Dieu. Deuxièmement, lorsqu'il fera passer la satisfaction du corps avant celle de son âme. Et troisièmement, lorsqu'il vivra pour le temporel au lieu de ce qui est éternel. Alors, si on regarde les idées, c'est les plaisirs et les illusions du monde, les plaisirs du corps et le temporel, d'un côté, le côté sous le soleil des hommes. Et l'autre côté, c'est que si tu fais passer ces choses-là avant Dieu, si tu fais passer le corps avant l'âme, si tu fais passer ce qui est terrestre et temporel avant l'éternel, bien sûr, ça va toujours t'apporter les mêmes résultats de déception, d'insatisfaction et de désillusion. Alors, j'ai trouvé en travaillant dans les commentaires une petite phrase que je trouve remplie de sagesse et qui se lit comme suit. Le monde est tout en page de titre, sans contenu. Ça tire sa source d'un livre anglais, un poète anglais, c'est un pasteur aussi, anglican, qui s'appelait Edward Young. Il a vécu de 1681 à 1765. Juste pour vous donner une idée, en Angleterre, il existe certaines œuvres littéraires qui sont devenues célèbres, comme, je ne sais pas moi, Shakespeare, par exemple. Un autre, ici, on dit d'Edward Young, moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert un petit peu en faisant ce travail-là. On dit d'Edward Young que dans le milieu anglais, Angleterre, il a écrit ce livre-là qui s'appelle Night Thoughts, autrement dit les pensées de la nuit. Alors, il était à la fois poète et pasteur. Et il semble que je l'ai downloadé, je l'ai trouvé sur Internet. Ce livre-là, qui est célèbre en Angleterre, dans le milieu anglais, a été traduit en français sous le titre « La plainte ou pensée nocturne sur la vie, la mort et l'immortalité ». Alors, c'est un pasteur qui a écrit sur ces sujets-là. Et il semble que c'est très apprécié en Angleterre. Et à l'intérieur de ce livre-là qu'il a écrit, qui est encore utilisé de nos jours, il y avait cette fameuse phrase-là, « Le monde est tout en pages de titre sans contenu ». C'est un peu comme si tu avais un livre, tu avais juste des pages avec un titre, mais il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de contenu. Alors lui, c'est le même qui voyait, il dit « Le monde est tout en pages de titre sans contenu ». Alors, le prédicateur met ses auditeurs au défi de tout relativiser, de tout rééquilibrer et de tout subordonner, que ce soit leurs activités, leurs projets ou leurs valeurs. La priorité doit être donnée au Seigneur. Alors, quand on dit « relativiser », c'est que tu regardes ce que tu fais sur Terre, mais si tu le mets en relation avec Dieu, tu te rends compte que bien souvent, tu perds ton temps. Et rééquilibrer, ça veut dire que des fois, tu donnes trop d'importance aux choses terrestres et que tu te dois de corriger et de redonner l'importance au Seigneur qu'il se doit d'avoir. Et aussi de subordonner, ça veut dire que le Seigneur doit toujours avoir la première place. Et les autres choses doivent être subordonnées, donc sous. Subordonnées, ça veut dire ordonnées par ce qui est au-dessus. Très intéressant comme idée. Alors, quand il nous dit aussi dans le verset, sous le soleil, c'est une expression qui est utilisée lorsqu'on vit, on parle de sur la terre. Bon, bien sûr, quand on sort dehors, que, peu importe la journée, quand il y a du soleil, on est sous le soleil. Alors, c'est vraiment l'idée quand on est dans la vie terrestre, dans la vie temporelle, dans la vie, ce côté-ci de la vie, la vie éternelle, l'autre côté. Mais très important de savoir bien gérer la vie qu'on vit sous le soleil. Alors, quand on utilise l'expression « sous le soleil », bien entendu, c'est absolument tout ce que nous vivons sur la terre et dans ce bas monde. Autrement dit, rien n'est pas compris dans « sous le soleil ». Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, toutes nos actions. Alors, on sait que le péché a amené dans la vie de l'homme de la rébellion et que le péché a tout faussé dans le sens des valeurs. L'être humain est confus, il choisit les mauvaises choses et il poursuit les mauvaises choses. Et c'est ça qui est le but du livre de l'Ecclésiaste, c'est de lui montrer la futilité, la vanité de toutes ces choses-là. Et pourquoi ici, est-ce que l'homme, de façon naturelle, va découvrir par lui-même? Souvent, c'est par les expériences que Dieu te fait vivre, par la Providence, qui t'amène, qui te pousse, un peu comme il fait dans ce livre-là, ça nous pousse à réfléchir, à regarder, à examiner, à voir si tout ce qu'il dit est vraiment vrai. Et si on se rend compte que certaines idées qu'il avance sont réelles, sont pleines de vérité, on se doit, bien entendu, de réajuster notre tir. Deux versets, deux petits passages, Ésaïe 55, verset 2 et verset 3. Pourquoi? Ésaïe 55, versets 2 et 3. « Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassaisit pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. » Et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Alors ici, on a vraiment un verset qui nous invite à réfléchir, de ne pas poursuivre ce qui ne nourrit pas et ce qui ne rassaisit pas. Mais il nous parle de l'alliance éternelle, de pouvoir de trouver son plaisir dans ce que l'Éternel ce que veut que l'on poursuive. Et on a aussi un autre passage qui est celui de Habacuc, chapitre 2, verset 13. « Voici, n'est-ce pas par la volonté de l'Éternel des armées que les peuples travaillent pour le feu et que les nations se lassent pour le néant? » Alors, trois applications, autrement dit, après avoir étudié ces trois petits versets-là, quelles sont les choses qu'on se doit de mettre en pratique dans nos vies? Quelles sont les choses qu'on a apprises et qui doivent se manifester, qui doivent paraître dans nos vies? Je dirais la première, implorons le Seigneur de nous montrer nos erreurs de jugement et de comportement dans nos poursuites terrestres, et de nous ramener à la seule chose importante de la vie, craindre Dieu et obéir à ses commandements, comme on va le voir, la fin du livre nous amène à cette conclusion-là, craindre Dieu et obéir à ses commandements. Donc, implorons Dieu de nous montrer nos erreurs de jugement et de comportement dans nos poursuites terrestres, et qu'il nous ramène à la seule chose importante de la vie, soit craindre Dieu et obéir à ses commandements. Deuxième application, demandons à Dieu de nous donner le courage de nous examiner nous-mêmes et de procéder aux ajustements nécessaires pour vivre selon Dieu et selon les Saintes Écritures. Troisièmement, prions quotidiennement pour ne pas vivre de confusion, de déception, d'insatisfaction et de désillusionnement dans nos choix de vie. Nous devons nous réformer constamment et se réorienter vers Jésus-Christ, le soleil de justice, par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Alors, comme on l'a mentionné au début, on va aller, ça serait bon de tous ceux qui suivent les leçons, l'annexe 1, de le garder près d'eux tout au long de l'étude qu'on va faire au cours des prochaines semaines. Le but de cela, c'est qu'on va voir dans l'annexe 1 que le livre, certains auteurs ont analysé et organisé le contenu de manière à nous montrer un plan dans le livre. Et on peut dire, selon le plan que moi j'ai utilisé, l'auteur que j'ai utilisé, il nous dit que le thème du livre de l'Ecclésiaste, c'est « La vie sans Dieu est vaine ». Le but, ce qu'on va faire, c'est à chaque semaine, on va regarder la section qu'on a étudiée et on va regarder de quelle manière l'idée, comment l'auteur a développé son thème pour nous montrer que ce qu'il avance dans les trois premiers versets est vraiment authentique et vrai. Alors aujourd'hui, on a vraiment l'introduction. L'introduction, elle va du premier verset du chapitre 1 jusqu'au verset 11. Et les trois premiers versets, la principale idée, on pourrait résumer, c'est que tout semble vain dans la vie. Tandis que la semaine prochaine, on va voir les versets 4 à 11 du chapitre 1. Et le but de cette partie-là va être de nous montrer que tout ce que l'homme poursuit sur la terre, si on fait une comparaison avec la nature, on va voir que la nature est stable et que tout ce que l'homme entreprend, c'est tout instable. Alors, c'est comme une comparaison que l'auteur va faire pour nous montrer la solidité de son affirmation. Et on va faire ça tout au long de notre étude, ce qui va faire en sorte que ça va contribuer à ce qu'on ait le plan un peu dans la tête et qu'on saisisse le fil conducteur du développement du livre de l'Ecclésiaste. Alors, on va arrêter là pour cette semaine.